Bonjour à tous. Les transferts sanitaires de malades Covid d'Île-de-France vers les hôpitaux de l'Ouest se poursuivent aujourd'hui. Ce matin, deux malades ont été pris en charge et transférés vers Bordeaux en avion médicalisé. Nous serons à Orly avec Hélène Chevalier dans un instant. La mauvaise image du vaccin AstraZeneca. L'Irlande suspend l'utilisation de ce vaccin par précaution. Le laboratoire AstraZeneca confirme des retards de livraison en Europe. L'Union européenne estime que les objectifs de vaccination seront tenus et annonce par la voix de Thierry Breton que l'objectif est de mettre en place un passeport vert pour voyager avant l'été. 5 millions de Français vaccinés, Jean Castex s'est félicité hier soir sur Twitter. Le Premier ministre sera ce soir sur Twitch. Invité de ce journal, Samuel Etienne qui reçoit Jean Castex. Dans ce journal également, Bernard-Henri Lévy rend hommage à Jean-Claude Fasquelle et l'historien Pascal Blanchard nous dira comment a été établie la liste de 318 noms de personnalités issues de la diversité et remise à Emmanuel Macron. La météo, un temps de mars, des giboulées et un peu de neige sur l'est, plus ensoleillé à l'ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Des avions qui évacuent des patients Covid d'Île-de-France vers des hôpitaux de l'Ouest, des transferts sanitaires qui vont se poursuivre, une centaine prévue la semaine prochaine pour soulager les services de réanimation de Paris et de l'Île-de-France. La séquence rappelle les jours angoissants du printemps dernier, il y aura bientôt un an, et alors qu'une troisième vague de l'épidémie frappe l'Europe. Ce matin à Orly, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a assisté aux évacuations par avion médicalisé de deux patients et une troisième vague d'évacuation. L'évacuation sanitaire aura lieu cet après-midi. Une troisième personne sera évacuée cet après-midi. Sur place à Orly, on retrouve Hélène Chevalier.
Oui, les deux patients de 33 et 70 ans sont arrivés dans deux ambulances du SAMU vers 10h15. Ils viennent de l'hôpital de Meaux en Seine-et-Marne et faisaient partie d'une liste de personnes transférables, explique le docteur Éric Le Carpentier, chef du service au SAMU du Val-de-Marne.
Donc l'objectif, c'est d'avoir un patient qui est déjà stable, qui n'a pas posé de problème dans les 24-48 heures qui précèdent et qui a, on va dire une faisabilité du transfert. En fait, les patients qui sont en gros surpoids nous posent des difficultés pour ne serait-ce que le brancardage et toutes les phases de mise en œuvre.
Car il faut pouvoir passer l'étroite porte du petit avion. L'opération est délicate. Les brancards des deux patients sont ensuite placés l'un derrière l'autre. Deux infirmiers, deux médecins les accompagnent dans ce vol d'un peu plus d'une heure pour Bordeaux. Une distance qui ne facilite pas l'acceptation des familles, reconnaît Nicolas Péju, directeur adjoint de la RS Île-de-France.
Ce qui remonte des équipes aussi, c'est que l'acceptabilité, y compris par les familles, de cet éloignement est moins forte. Donc c'est plus difficile de trouver des patients à évacuer, à la fois pour des raisons donc sanitaires, de stabilité qui permet le transport, et aussi d'acceptabilité par les familles.
Et d'ailleurs, ce sont deux autres patients de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges qui étaient prévus ce matin, mais leurs familles ont finalement refusé.
Et ces évacuations sanitaires, Hélène, vont se poursuivre et s'amplifier la semaine prochaine?
Oui, c'est ce qu'a annoncé ce matin Gabriel Attal à l'aéroport d'Orly. La situation est tendue, préoccupante en Île-de-France. Il faut tout faire pour relâcher la pression sur les services de réanimation.
Il y a eu 3 personnes évacuées hier, il y en a 3 aujourd'hui. À partir de demain, il y en aura 6 par jour par des moyens avions ou hélicoptères. Et puis en fin de semaine, des TGV médicalisés.
Les deux trains devraient partir jeudi et dimanche. Au total, une centaine de patients pourraient être transférés cette semaine de l'Île-de-France vers l'Occitanie, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine.
Hélène Chevalier avec Georges Thau à Orly. Les nuages s'amoncellent autour du vaccin AstraZeneca. Les autorités sanitaires en Irlande recommandent au gouvernement de suspendre temporairement l'utilisation de ce vaccin. Auparavant, l'Autriche, la Norvège, le Danemark et l'Islande avaient également suspendu l'utilisation de ce vaccin par précaution après des cas graves de coagulation. Autre mauvaise nouvelle concernant l'image déjà écornée de ce vaccin, le laboratoire AstraZeneca annonce un nouveau retard de ses livraisons à l'Union européenne en raison de difficultés de production et notamment l'homologation d'une chaîne de production aux Pays-Bas qui se fait attendre, Lex Milotin.
L'usine d'Alix, située aux Pays-Bas, est censée produire 5 millions de doses par mois. Mais le site n'a toujours pas reçu l'homologation de l'Agence européenne des médicaments et ne peut donc pas se lancer dans la production. L'agence explique de son côté attendre des documents de la part d'AstraZeneca. Autre problème soulevé, les restrictions sur les exportations. Selon le laboratoire, les États-Unis bloqueraient les envois de vaccins produits sur leur territoire, tout comme l'Italie avait refusé d'exporter des doses vers l'Australie. Ces retards de livraison suscitent l'agacement de plusieurs pays européens. On est malheureusement habitué, commente un responsable belge. En Allemagne, le Land de Thuringe est obligé de reporter une campagne de vaccination de personnes âgées à domicile. La Commission européenne indique poursuivre ses discussions avec AstraZeneca, alors qu'à ces difficultés s'ajoutent des craintes sur de possibles effets secondaires liés au vaccin. Bruxelles, Lax-Milota, France Inter.
En France, le vaccin AstraZeneca est de plus en plus utilisé. Ce matin, dans le journal du dimanche, un collectif de médecins défend le vaccin AstraZeneca. Il rappelle que 30 cas de thrombose, des caillots de sang qui se forment dans les veines, ont été identifiés parmi 5 millions d'individus vaccinés en 3 mois. Il y a eu, disent-ils, en France, sur la même période, 500 cas de thrombose sans lien avec une vaccination quelconque. Pour ces médecins, il y a plus de risques de faire une forme grave de coronavirus quand on n'est pas vacciné que de faire une thrombose. Et puis, selon Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, l'Union européenne vise une entrée en service d'un certificat sanitaire, le passeport vert, pour faciliter les voyages au sein de l'Union avant les vacances d'été. Ce projet de certificat, qui devrait être présenté mercredi, contiendra des informations qui vont indiquer qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus ou qu'elle a guéri ou encore qu'elle a reçu un test négatif, indique Thierry Breton. Jean Castex, hier soir sur Twitter, s'est exprimé au sujet de la vaccination. 5 millions de Français vaccinés, merci pour votre mobilisation. C'est uni que nous vaincrons le virus, a complété le Premier ministre. Et après Twitter, Jean Castex sera ce soir sur Twitch, une plateforme de streaming vidéo sur la chaîne du journaliste Samuel Etienne. Dans l'émission On vous répond, c'est à 18h ce soir. Samuel Etienne est l'invité de ce journal, journaliste à France Info, question pour un champion sur la 3. Et tous les matins, bien sûr, sur Twitch, une revue de presse dans la matinée Etienne. Bonjour Samuel Etienne.
Bonjour Frédéric.
Alors grâce ou à cause de vous, c'est selon, on parle beaucoup de cette plateforme de vidéo en direct et quel succès, un double succès auprès de vos abonnés et de ceux qui vous suivent tous les jours, mais aussi auprès des politiques qui ont vraiment envie de venir discuter avec vous et avec les internautes. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès ?
Non, absolument pas. Pour les deux aspects de ce que vous évoquez, la revue de presse, je pensais lire un peu les journaux dans mon coin, puisque c'est ma passion, l'exercice journalistique que j'ai préféré en 25 ans, c'est vraiment la revue de presse, et je pensais vraiment que ça resterait un petit peu confidentiel, et effectivement, il y a beaucoup de monde chaque matin, je m'en réjouis, ça veut dire que, notamment les jeunes, puisqu'il y a beaucoup de jeunes sur Twitch, s'intéressent beaucoup plus à l'actualité qu'on ne le dit, peut-être qu'on n'a pas inventé les rendez-vous d'infos qui pouvaient captiver leur attention, et puis la politique que je n'avais pas du tout prévu d'aborder dans ce rendez-vous, mais c'est né un peu d'un hasard de l'équipe qui entoure François Hollande qui est venue vers moi, qui m'a dit qu'elle trouvait ce rendez-vous très intéressant.
Et pour Jean Castex, alors c'est Matignon qui est venu vers vous ?
Non, alors là c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est moi qui ai remarqué que le Premier ministre me suivait sur Twitter depuis très peu de temps, comme j'avais beaucoup de messages de plusieurs ministres du gouvernement qui, après François Hollande, voulaient participer eux aussi. Je me suis dit, quitte à recevoir un ministre, je ne vais pas recevoir tout le gouvernement, envoyons un message au Premier, et il a dit oui.
Samuel Etienne, est-ce qu'on saura ce soir, par exemple, si l'Île-de-France ou d'autres départements seront reconfinés ? On attend tous une réponse à cette question.
Oui, alors, franchement, je serais Premier ministre, je ne choisirais pas Twitch pour annoncer ce type de décision aussi impactant pour les Français. Je pense que c'est une genre d'annonce qui demande un minimum de solennité, donc je serais le Premier ministre, je ne serais pas forcément là, je ferais cette annonce. En revanche, et c'est mon pari, je crois que comme les questions vont venir, non pas de Samuel Etienne, mais du chat, oui, que les Français depuis longtemps disent « Ah, mais les politiques sont coupées de nous et de la réalité », mon pari, c'est que les questions qui vont venir du chat et des viewers vont peut-être pas être les mêmes que celles qu'on pose d'habitude aux responsables politiques.
Alors Samuel Etienne, restez avec nous. Certains gamers qui utilisent Twitch sont assez critiques avec l'arrivée de la politique sur cette plateforme. Cela risque d'en détourner l'esprit. Je voudrais vous faire entendre Jean Massier, qui est un streamer spécialisé dans la politique avec sa chaîne Acropolis, et on en reparle après.
Le dispositif qui met en place le fait d'inviter le Premier ministre seul chez lui, ça soulève des questions de la part de personnes qui s'interrogent sur le risque de complaisance que ça peut représenter. Peut-être que la vérité est entre les deux. C'est vrai que c'est assez iconoclaste d'avoir un Premier ministre qui va venir échanger directement avec un chat. Sur Twitch, ce qui est très valorisé par le public, c'est la sincérité. Il n'y a rien de plus insincère qu'un politique qui fait de la com. Et il y a aussi ça, du coup, qui énerve beaucoup, c'est de voir une opération de communication gouvernementale à peine voilée se dérouler sous leurs yeux sur une plateforme sur laquelle c'est exactement l'inverse que l'on valorise d'habitude.
Réponse, Samuel Etienne. La sincérité, elle y sera.
J'espère, et je mets en garde tous les politiques qui veulent venir sur Twitch, à savoir qu'effectivement, je crois qu'on peut pas tellement tricher là. Il y a un désir d'horizontalité sur Twitch, c'est-à-dire que tout le monde est d'égal à égal. Moi, quand je parle le matin des journaux, chacun peut m'interpeller et je peux vous dire que il ne manque pas de le faire sur l'actualité, mais aussi sur la façon dont nous journalistes travaillons. J'essaie de répondre autant que je peux. Et effectivement, si quelqu'un vient faire uniquement de la communication politique, un coup comme je viens de l'entendre, ça va se voir gros comme le nez au milieu de la figure et ça va pas très bien se passer. Donc attention, Twitch, c'est fascinant parce qu'on peut rentrer en contact avec les Français, notamment avec la jeune génération, mais il faut venir armé de bonnes intentions et surtout pas venir faire de la communication parce que ça se passera pas très bien.
Samuel Etienne, après François Hollande, Jean Castex, d'autres responsables politiques, on avait parlé du Rassemblement National, est-ce qu'il y a d'autres personnalités que vous souhaitez recevoir?
Oui, bon, déjà beaucoup souhaitent venir, j'ai beaucoup de propositions en ce sens. J'avais pas prévu de faire de la politique. À partir du moment où j'ai accepté que François Hollande vienne sur Twitch pour rencontrer les viewers, je me suis rendu compte en tant que journaliste que maintenant que j'avais mis le doigt dans un engrenage et que journalistiquement parlant et de manière républicaine, il fallait maintenant que je donne la parole à toutes les sensibilités politiques de ce pays. Donc effectivement, je ne m'interdis aucun parti politique. Je vais faire un tour du paysage politique français. Je vais peut-être pas faire 10 tours, je vais faire un tour pour que chacun, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, bien sûr, puissent venir échanger.
Samuel Etienne, une dernière question. Dites-moi, oui. en lien avec la crise sanitaire et les gestes barrières, lundi dernier avec François Hollande, je vous ai trouvé bien proches l'un de l'autre et sans masque dans votre échange. Est-ce que ce sera le cas ce soir avec le Premier ministre?
C'est vrai que l'image a pu surprendre. Peut-être qu'on n'aurait pas dû donner cette image. Alors bon, l'ancien président et moi-même venions de faire des tests PCR, donc on savait qu'il n'y avait pas de risque sanitaire, mais en termes d'exemplarité et d'image, peut-être qu'il aurait fallu faire autrement. Le Premier ministre ce soir a vraiment souhaité être masqué, et je le serai aussi. Comme c'est la seule condition d'ailleurs qu'il a mis à sa venue, nous serons tous les deux masqués ce soir, même si. En termes de, on va rater toutes les expressions du visage, les sourires, la colère, la surprise par rapport aux questions du chat. Donc c'est dommage, mais on est dans un contexte particulier, donc c'est beaucoup plus important.
En tout cas, pour certains membres de la communauté Twitch que je pratique au quotidien, tout le monde est au courant que vous recevez Jean Castex ce soir et ils vont sans doute vous regarder. Merci beaucoup, Samuel Etienne. Rendez-vous ce soir sur Twitch à 18h. Merci. Le bac en première et en terminale, français, philo et grand oral, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer se veut ce matin rassurant. La situation sanitaire s'améliorera en juin, dit-il, et permettra la tenue dans des conditions normales du baccalauréat. Et parallèlement, sur la question du harcèlement scolaire, un autre ministre, Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté, annonce la création d'un comité pour aider les parents face à cette question du harcèlement. Marlène Schiappa.
Je crée dans la semaine qui vient un comité des parents contre le harcèlement avec des associations comme l'UNAF, e-enfance, des personnalités comme Fabienne Servan-Schreiber et d'autres. Et ensemble, nous allons travailler autour des maisons de confiance et des familles qui sont des outils créés par la gendarmerie nationale pour partout sur le territoire mieux outiller les parents face au harcèlement. Quand on est parent d'un enfant qui est harcelé, mais aussi quand on est parent d'un enfant qui participe à ces phénomènes de harcèlement avec les réseaux sociaux, les enfants ne voient pas toujours ce qu'ils font, les adolescents non plus. Et je crois qu'aucun parent n'imagine que son propre enfant est en train de participer à un phénomène de harcèlement ou de cyberharcèlement. Il faut une vigilance accrue de la part des parents. Et pour cela, être mieux outillé, ce sera le sens de ce comité, qui sera un comité avec des personnalités qualifiées, des associations et interministérielles, bien sûr.
Marcelaine Schiappa avec Ersin Lebovic et cet après-midi à Argenteuil dans le Val d'Oise, une marche blanche est organisée en mémoire à Alisha, cette adolescente de 14 ans morte poussée dans la Seine après avoir été frappée par deux élèves de sa classe qui l'avaient harcelée. À l'étranger, c'est une vidéo et des images qui choquent les Anglais. Hier soir, des centaines de personnes se sont rassemblées à Londres en hommage à une jeune femme assassinée par un policier. Le rassemblement était interdit, des tensions ont éclaté et des photos et des vidéos montrant des policiers britanniques maîtriser et menotter brutalement plusieurs participants ont provoqué, Richard Place, une vague d'indignation.
Une femme aux longs cheveux roux, plaquée au sol et menottée dans le dos, c'est l'image qui choque ici. Depuis plusieurs heures, des anonymes se recueillaient devant un kiosque à musique à Clapham, dans le sud de Londres. Des fleurs, des messages y étaient déposés. Dans la journée, Kate Middleton, l'épouse du prince William, s'est même rendue sur les lieux anonymement, sans escorte apparente, des photos en attestent. À 21h30, dans la nuit noire, plusieurs centaines de personnes, majoritairement des femmes, allument la lumière de leur portable. C'est l'heure où Sarah Everhart avait été vue pour la dernière fois 11 jours plus tôt. Les policiers décident alors d'arrêter 4 manifestantes sans ménagement. Il les emmène sous les cris de « Shame on you », honte sur vous. Dès hier soir, le maire de Londres parlait d'une réponse ni appropriée ni proportionnée. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a demandé un rapport complet sur ce qui s'est passé après avoir vu ces images qu'elle juge bouleversantes. La police affirme que c'était la seule chose à faire pour protéger les gens dans le cadre des règles anti-Covid. Le meurtrier présumé de Sarah Everhart a été interpellé il y a quelques jours et déjà une polémique autour de son profil puisqu'il s'agit d'un policier. Londres, Richard Place, France Inter.
Regardez l'histoire en face dans sa diversité. Une liste de 318 noms de personnalités qui ont contribué à l'histoire de France. 318 héros issus de la diversité a donc été remise à Emmanuel Macron. Une liste qui doit permettre aux élus locaux de renouveler les noms de rues, de bâtiments publics ou d'ériger des statues. L'historien Pascal Blanchard, qui préside le comité scientifique qui a établi la liste, était ce matin l'invité du 6-9 d'Éric Delvaux et de Patricia Martin.
Il est automatiquement impossible d'avoir un recueil neutre à partir du moment où vous demandez à 18 personnes, comme était l'équipe scientifique, de choisir. C'est, je dirais, la complémentarité de nos choix tous respectifs. Par contre, il ouvre, je trouve, un spectre extrêmement large. C'est-à-dire que chacun sont arrivés avec leur approche d'historien ou de sociologue. Donc sont arrivés avec leur approche d'intellectuel. Je pense à Leïla Slimani, par exemple, ou David Diop, le romancier. D'autres ont une approche d'associatif sur le territoire. Salah Mokram, Samia Chabani. L'idée, c'était quoi? C'était qu'on arrive autour d'une table avec des cultures et des points de vue différents. Quand André Racoteau, par exemple, propose le nom de militaire, les autres n'avaient pas du tout la culture de ces militaires avec lesquels il est arrivé.
Sur le principe même de donner un nom à une rue, de toute façon, et ça, c'est pas nouveau, il y a un principe de neutralité du service public et il y a aussi une volonté de ne pas heurter la sensibilité des personnes.
Tout à fait.
Ça, c'est une tradition.
Et c'est, nous n'heurtons aucune sensibilité de personne en parlant de grands Français et Françaises qui se sont battus ou qui ont choisi la France, qui ont été hommes de lettres. Alors après, on peut avoir un débat. C'est pour ça qu'on en met 318. Choisissez.
L'historien Pascal Blanchard avec Éric Delvaux et Patricia Martin ont le qualifié d'aventurier de l'édition. Jean-Claude Fasquelle, l'ancien directeur historique des éditions Grasset, est mort hier soir à l'âge de 90 ans. L'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy témoigne ce matin de sa tristesse. On l'écoute.
C'était un très grand éditeur à l'ancienne. Il était dans le temps présent, il était dans le temps de l'actualité littéraire, mais il avait aussi l'histoire de la littérature en tête. Son arrière-grand-père avait été l'éditeur de Zola et avait été l'éditeur des Dreyfusards. Donc il vivait dans une sorte de temps de la dynastie d'éditeurs dont il était le rejeton. Et puis, il était d'une présence absolue. Sa petite maison du Square Vergennes à Paris était vraiment une annexe des éditions Grasset. C'était le matin, c'était le soir, c'était les dîners, c'était les dimanches, c'était... Il ne s'arrêtait jamais. Les auteurs auxquels il tenait savaient que le Square Vergennes était à toute heure et toujours de la semaine un lieu où il serait reçu comme dans son bureau très intimidant de la rue des Saints-Pères. Donc il y avait une paroi de verre entre ces différentes vies qui faisait que tout cela conspirait pour ce qu'il pensait être le bien de la littérature.
Bernard-Henri Lévy avec Corinne Pellissier. Le printemps des poètes en ce moment jusqu'à la fin du mois. 23e édition sur le thème du désir, parrainée par la comédienne Marina Hans. On s'habitue à ce renouveau de la poésie, mais les biais sexistes et de genre ont-ils été épargnés dans un milieu qui semble toujours un peu au-dessus de la mêlée? Eh bien, ce n'est pas si sûr, Christine Siméon.
Bien sûr, il est désormais plus facile pour les femmes poètes d'être visibles qu'il y a une vingtaine d'années. Mais comme le constate Angèle Paoli, fondatrice du site Terre de Femmes, il y a encore des progrès à faire.
Disons que régulièrement, les femmes montent au créneau, par exemple, dans les anthologies classiques, le nombre de femmes est toujours inférieur au nombre d'hommes. Ça, c'est clair et net.
Les poètes femmes reconnues s'appellent Marie-Claire Bancard, par exemple, morte en 2019. On pourrait aussi citer trois exemples, Ariane Dreyfus, Sophie Loiseau, Valérie Rousseau.
Il y a quand même un paradoxe, c'est que la sensibilité féminine ou la sensibilité poétique quand elle vient des femmes est moins reconnue dans le sens où elle est trop lyrique. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des très bonnes poètes, vraiment, qu'on vient chercher quand il s'agit de pondre des papiers pour rendre hommage à un poète disparu. Mais c'est contradictoire, en quelque sorte.
En poésie, les femmes éditrices sont aussi de plus en plus nombreuses, mais souvent dans des structures très modestes, avec très peu de moyens.
Christine Siméon, le printemps des poètes, en ce moment jusqu'à la fin du mois de mars. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Beaucoup de vent sur la Haute-Corse, parfois plus de 120 km à l'heure sur la région bastiaise et sur le relief. Du vent également vers 80 km par heure sur les régions méditerranéennes. Avantage, les nuages vont rester à l'écart. Sur le reste du pays, l'ambiance sera variable avec des éclaircies plus durables qu'ailleurs vers le centre Val-de-Loire, la Basse-Normandie, la Bretagne et le Poitou-Charentes. Mais des averses sur les autres régions. Averses sous forme de giboulées avec des flocons jusqu'en plaine entre les Alpes du Nord et les Vosges et de la neige à partir de 600 mètres sur tous les massifs, le tout ponctué de bourrasques à 80 km à l'heure et attention au risque marqué d'avalanche sur les Alpes. Les températures vont monter entre 7 et 9 degrés du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Il fera 10 à Lille, 11 à Lyon, Orléans et Bourges, 12 à Rennes et dans la capitale, 13 à Bordeaux et à Cognac. Le maximum sera de 17 degrés pour la Côte d'Azur et la Corse.
Jean-Michel Golinski de Météo France.